Va toujours bien. Est-ce que simplement faire un petit point avant de poursuivre, est-ce que ça vous convient le rythme avec lequel on avance? Ça va? Je ne vous perds pas? Je ne vous ennuie pas? Alors ça va. Alors on va poursuivre notre exploration. Du terme l'amour dans l'amour, après avoir fait ce matin un petit détour par le cantique des cantiques, et puis même au-delà, en nous invitant à voir dans ce texte le miroir de nos amours et également essayer d'entrer en interprétation et de recevoir cette proposition d'amour que le Seigneur nous fait, mais pour chacun d'entre nous aussi, en interprétant à notre hauteur par rapport à notre histoire, jusqu'à nous laisser interroger par le Christ lui-même, comme il l'a fait avec l'apôtre Pierre, avec cette triple question, m'aimes-tu? Je ne sais pas si vous y avez répondu, ça sera votre secret en tout cas, mais au moins d'avoir entendu la suite, maintenant, suis-moi. C'est là, c'est ça qui est le plus important dans ce passage de texte. Bien sûr, vous pouvez y répondre sur le m'aimes-tu? Mais vraiment, c'est entendre cette invitation qui suit de maintenant, suis-moi. Alors, l'amour des évangiles. L'amour des évangiles a une telle puissance subversive qu'il remet en cause tous les pouvoirs et que l'on peut en mourir. On a souvent été tenté dans les années 1970, où la révolution était à la mode, rappelez-vous mes sœurs, de comparer Jésus à un révolutionnaire. On a même rapproché les itinéraires et les analyses de Che Guevara, de Marx, avec ceux de Jésus. Les savants n'étaient pas en reste. La théologie de la libération, qui empruntait aux analyses marxistes, a fait son apparition en Amérique latine d'abord, puis dans l'ensemble du tiers-monde. Oui, la révolution associée au personnage de Jésus, mes sœurs, vous l'avez connue, je crois, dans les années 70 au moins. Aventure personnelle ou aventure collective? Eh bien, il y a eu la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide et les révélations sur l'univers concentrationnaire soviétique. Plus tard, hein. Du coup, les chrétiens se sont faits modestes, plus intérieurs, et ont réagi contre toute tentative de récupération de la bonne nouvelle par un collectif quel qu'il soit. Un coup de balancier bien trop fort dans le sens de l'intériorité et de la vie ecclésiale. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque nous employons le mot révolution, nous sommes souvent en porte-à-faux. La révolution est-elle un processus social, une aventure personnelle, un peu des deux? L'aventure dont nous parle Jésus est-elle avant tout intérieure, cette aventure, ou bien collective, ou bien un peu des deux? Et en tout cas, comment se fait l'articulation entre révolution personnelle et révolution collective? Et ce collectif, est-ce que c'est l'Église? Rappelons-nous d'abord les faits. Jésus apparaît dans une société troublée. La terre promise, au moment où Jésus naît et grandit, est occupée avant lui successivement par les Babyloniens, par les Perses, par les Grecs, avec un petit temps de répit au moment des Maccabées, puis près d'un siècle, elle vit sous la domination romaine. La résistance à l'occupant, qu'elle soit passive et avant tout religieuse et culturelle, comme chez les Esséniens ou les Pharisiens, ou bien active et violente, comme chez les Zélotes. En tout cas, c'est un trait commun de l'époque de Jésus. Au moment où Jésus vit, il y a de la tension et de la révolution dans la société. Seuls les Sadducéens, c'est-à-dire la noblesse foncière et religieuse, semble jouer une sorte de double jeu avec l'occupant. Mais Jésus est présenté avant tout comme un libérateur. Alors de quel royaume parle-t-on quand on parle du royaume que le Christ veut instaurer par rapport à cet univers de crise dans lequel il évolue, nous évoluons? Quelle place pour sa proposition, pour le monde qu'il voudrait mettre en place, ou du moins que l'Évangile souhaiterait voir grandir et devenir ce fameux royaume? Est-ce que ce n'est qu'un royaume imaginaire, lointain, ou est-ce qu'il suppose effectivement une manière de vivre, et une manière de vivre qui peut bousculer des habitudes? Un étrange royaume, en tout cas. Pour Jean-Baptiste, il n'y a pas à s'y tromper. Jésus est le Seigneur qui vient établir son royaume. Pourtant, ce royaume est étrange. Les quatre évangélistes réunis, utilisant toutes les ressources de la narration et de l'enseignement, nous font explorer l'étrange paradoxe de ce royaume. Le royaume de Jésus n'est pas violent. Il ne s'impose pas. Il ne règne pas au sens où il ne domine personne. Il s'offre en la personne de Jésus qui nous a aimés à en mourir. Et pourtant, il progresse, que nous le voulions ou non. Il pousse tout seul, comme cette plante dans l'évangile de Marc au chapitre 4. De plus, ce royaume que les Juifs auraient bien voulu voir se réaliser tout de suite n'est pas de ce monde. Et pourtant, il a déjà commencé et il est parmi nous. Enfin, et c'est bien le plus étrange, il dépend de nous et pourtant, il n'a pas sa source ni sa fin en nous. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, ce royaume qu'à chaque fois que vous priez le Notre Père, vous appelez « Que ton règne vienne ». Quel est donc le moteur, l'âme de cet étrange royaume qui a toute la puissance d'une révolution et toute la douceur d'un appel? L'amour, nous le savons bien, c'est bien cela. L'amour, voilà l'énergie, voilà le moteur, voilà l'âme de cette révolution et de cet appel intérieur. Un peu étourdiment, nous allons ici et là, la bouche pleine de ce mot étrange, amour, 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 encore plus équivoque que celui de royaume. Mais cet amour doit bien avoir une puissance subversive pour que l'on ait condamné Jésus au supplice de la croix. Qui menace-t-il cet amour? Que remet-il en cause? Quel est-il? Un amour de service jusqu'au don de soi. Un amour qui ne fait pas exception de personne et considère comme égaux les juifs et les païens, les esclaves et les hommes libres, les hommes et les femmes. Cet amour menace les inégalités entre riches et pauvres, entre blancs et de toutes les couleurs teintées, entre hommes et femmes, en dirigeants et simples employés. Il remet en cause les hiérarchies et d'une manière générale tous les pouvoirs. C'est bien une révolution que cet amour, finalement, sans le dire ou de manière douce. Quand on pense à amour, on pense au petit mouton dont Jésus parle, ou alors, vous savez, ce grand champ ou cette grande herbe verte qui est là et qui est bien mignonne. L'amour conduit jusqu'à la mort. C'est donc bien une révolution qui a vu le jour il y a plus de 2000 ans de cela, dans cette Palestine en ébullition. Une révolution de l'amour, certes, mais une révolution quand même. Relisons le Magnificat de Marie pour nous en persuader. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Nous n'en finissons pas d'en apprécier les fruits. Promotion de la personne humaine, quelle qu'elle soit. Égalité femme-homme, abolition de l'esclavage, apparition de la fraternité au fronton de la République. Cette progression du royaume n'est pas le fait des chrétiens, quelque part, peut-être, mais elle s'est faite dans le sillage de la parole de Dieu. En ce sens, elle est bien le fruit de l'amour de Dieu pour les hommes, cette révolution. Aujourd'hui encore, nous devons dépasser sans cesse ces questions d'appartenance, de préséance ou de culture, et parfois de vie et de mort, pour faire triompher cet amour de Jésus qui nous précède toujours. Parfois là où nous ne l'attendrions pas. Si nous avons à le mettre en œuvre dans nos vies, comme dans la société, afin de mettre fin à cette structure de péché qui redouble le mal que se font les hommes, nous n'en sommes ni les propriétaires, ni les gardiens. Nous sommes, comme Jésus le dit lui-même, des serviteurs inutiles qui n'avons fait que notre devoir. Serviteurs de cet amour en marche, passeurs de cette passion de Dieu, au cœur du monde, d'un Dieu qui ne menace personne, d'un Dieu qui se révèle comme il est, d'un Dieu qui veut restaurer justement tout ce qui est unité de la personne, respect de l'individu et des gens, tout ce qui unifie, tout ce qui rend égal, égaux, tout ce qui permet en tout cas de ne plus vivre dans la soumission de l'un par l'autre, mais au contraire dans le respect. C'est cet amour qu'est l'Évangile, c'est ce royaume qui est en marche, c'est celui-là que nous appelons dans notre prière quotidienne en disant le Notre Père, que ton règne vienne. Alors non, l'amour de l'Évangile n'a pas grand-chose à voir avec quelque chose de mignon, de tout doux. L'amour de l'Évangile nous emmène loin, parfois beaucoup plus loin que ce qu'on voudrait. Votre chapitre, guidé par l'Esprit, refondé, ressoudé dans l'appartenance à la communauté ecclésiale, à l'Église, dont l'Esprit est l'initiateur, avec la fraternité comme compagnon, fraternité ou soralité, quand on est religieux, ça n'existe pas ce mot, mais enfin on comprend ce que ça veut dire, que de la vivre ensemble, dans une marche, c'est-à-dire une marche et résoudre un déséquilibre que de marcher. Quand on marche, on résout un déséquilibre. Ne pas rester sur un pied très longtemps. Nous ne sommes pas des cigognes ou des flamants roses. Il faut résoudre ce déséquilibre en marchant en permanence, et ce déséquilibre se résout en marchant ensemble. Mais avec, au cœur, comme énergie, comme force qui nous transporte, qui nous emmène loin, cette révolution de l'amour à laquelle nous sommes appelés à vivre dans nos communautés et puis à en rayonner autour de nous. On va, pour conclure, regarder cette œuvre d'art. Essayer de brancher ça. Vous l'avez également sur la feuille que vous avez reçue ce matin. On va prendre 2-3 minutes. 2 minutes. De contemplation, simplement. Vous pouvez noter tout ce que cette image vous évoque par rapport à cette dimension de l'amour. Ce qui vous étonne peut-être, ce qui vous marque, ce que vous avez en tout cas envie de mettre en partager. Voilà. Et puis on va faire un petit tour et j'en ferai du coup une lecture. Le regard de Marie sur l'enfant, Alors, ça vous étonne, ça vous inquiète, ça vous réjouit? Une histoire d'amour qui se révèle ici entre une mère et son enfant. Jésus regarde a priori celui qui regarde ou celle qui regarde. Donc les regards sont... Il n'y a pas un échange de regards, il y a un échange, il y a un regard qui se prolonge. Oui, toujours ce regard de Marie vers Jésus. D'autres... Les mains. Alors les mains de qui? Les mains de Marie, qu'est-ce qu'elles font? Ah, elle lui tire l'oreille? Comme un refuge. Marie est comme un refuge pour Jésus. C'est ça? Oui. Ah, est-ce que Jésus, à la fois, voilà, alors Jésus pousse, semble pousser au niveau du menton. Il a l'air de la rejeter, mais qu'est-ce qu'il fait avec son manteau, avec l'autre main? Ah, il s'accroche. C'est pas ce qu'il veut. Ça peut être une caresse, sans la regarder quand même, hein. Elle vous fait penser à quoi ou à quelle image aussi cette représentation, cette Madone à l'enfant? Pour qui? Marie est inquiète? Ah, elle n'éclate pas de rire, ça c'est sûr. Elle est dans l'esquisse d'un sourire. On devine quelque chose peut-être qui est en train de se mettre en place. Et en même temps, il y a de la retenue. C'est ça. Et ceux de Marie? Est-ce que c'est des yeux qui auraient pleuré peut-être? Donc, cette Madone à l'enfant s'appelle aussi la Madone du doux amour. Un doux amour qui sauvera le monde et qui est inspiré d'une icône byzantine. Là, c'est pas du tout une icône byzantine, c'est une peinture italienne, hein. Nous sommes à Bologne, en pleine Italie au XIVe siècle, hein. Donc, ce ne sont pas les icônes byzantines. Pourtant, elle rappelle quand même des icônes que vous pouvez connaître qui sont connues justement. Il y a une influence. Donc cet amour qui sauvera le monde, inspiré des icônes byzantines que l'Occident latin venait à peine de redécouvrir à ce moment-là. Cette peinture est la représentation même de l'amour maternel. En effet, dans le monde orthodoxe, elle porte le nom de Vierge Glycophyllusa. Alors ça, si vous jouez au Scrabble, vous avez 90 points d'un coup. Glyko. Phyllusa, ça veut dire le doux amour, Glycophyllusa, vierge du doux amour. Et tout dit l'amour dans cette interprétation moins rigide que les originaux grecs. Il y a le geste câlin de la Vierge, l'émerveillement du regard qu'elle porte sur son enfant, le mouvement confiant de celui-ci qui s'accroche à un pan du manteau et qui joue avec le menton de sa maman. Mais il y a plus qu'une touchante figuration de deux êtres qui s'aiment. Les Byzantins ont toujours lu dans cette icône un sens théologique. La glycophilousa est une variante d'une icône encore plus ancienne, l'Éléousa, dont le modèle le plus connu est la Vierge de Vladimir, que vous connaissez sans doute, où on voit Marie avec quasiment tête à tête avec son fils. L'Éléousa est la Vierge de miséricorde. L'amour infini de la mère pour le fils est la source du regard de tendresse qu'elle porte sur l'humanité entière. Dans sa variante glycophilousa, donc ce que nous avons ici, le Christ répond à cette tendresse, preuve que l'intercession de Marie pour l'humanité est efficace. Extraordinaire subtilité de l'art de l'icône. En peignant l'amour d'un fils et de sa mère, l'artiste exprime le cœur du message chrétien. C'est de l'amour que viendra le salut du monde. Et si elle lui tire l'oreille, est-ce qu'elle lui tire l'oreille ou est-ce qu'elle oriente l'oreille vers nous? Elle oriente d'une certaine manière l'oreille vers nous, non pas pour lui tirer, pour lui faire mal, évidemment, mais simplement pour nous dire, écoute-les, écoute-les. Ils ont des choses à te dire. Écoute-les. Toi le Sauveur, ils ont des choses à te demander. Ça ressemble un petit peu, d'une certaine manière, à ces mots que l'on lit au moment des noces de Cana, vous savez, où Jésus, au moment du signe, dit, mais enfin, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et si, 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 je te présente au monde, je te donne au monde, je te pousse vers le monde, écoute-les, écoute-les. Donc effectivement, dans ce geste d'amour, geste maternel, d'un amour tout simple, hein, d'une maman pour son enfant, il y a là quelque chose qui révèle le cœur de la foi. C'est effectivement de l'amour que viendra le salut du monde. Dans la perspective de votre chapitre, peut-être Notre-Dame du Calvaire, et justement, on est à l'autre bout de l'histoire. Jésus n'est plus un enfant, d'une certaine manière. Enfin, plus un enfant. Il reste le fils de Marie, évidemment. Mais est l'homme de 30 ans passés qui est crucifié sur la croix, où le salut se joue, où le salut se montre, dans le même élan d'amour que finalement cette scène où là Jésus est enfant, blondinet, petit. Jésus s'offre bien évidemment au monde librement, mais Marie est présente. Marie est présente d'un bout à l'autre de la vie du Christ. À la limite, elle l'encadre, cette vie. Elle est là, d'une certaine manière, avant lui, puisqu'elle le reçoit enfant et bébé. Bien sûr que Jésus préexiste, que Dieu préexiste à Marie, on est d'accord. Mais dans son sens humain, Jésus, forcément, elle est enceinte de lui, donc elle existe un peu avant lui. Et au moment de sa mort, elle sera encore là. Et durera. Elle qui aura aimé avant la venue du Christ jusqu'à sa mort en attendant la résurrection. Mais avant d'arriver à la résurrection, il y a le samedi saint. Et on passe pas de l'un à l'autre comme ça, comme si de rien n'était. Il y a encore de l'amour, il y a encore cette réponse à l'amour qui dure. La vie de Jésus est encadrée, figurée par Marie, par cet amour. Un amour qui, dès l'origine, dès la conception de Jésus, a bouleversé les plans, a bouleversé une vie, voire deux vies, celle de Marie et de Joseph. Et jusqu'au bout de l'histoire, aura bouleversé jusqu'à nos vies, à nous aussi, encadrées par l'amour. Alors, si nous comptons sur, bien évidemment, la présence de l'Esprit, la présence de l'Église dans le cheminement que nous vivons, que vous vivez dans ce chapitre qui se prépare, peut-être redécouvrir la place de la Vierge Marie, une place qui dit simplement, mais sûrement et fidèlement, l'amour du Seigneur encadrant votre histoire. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette image que vous pouvez continuer à contempler, à lui confier justement ce besoin peut-être que vous avez, que nous avons tous de toute façon, de restaurer l'amour en nous, de nous en redonner le sens, de nous en redonner la force aussi. Du coup, nous provoquer à cette révolution de l'amour, c'est-à-dire au changement du monde par l'amour, au bouleversement du monde par l'amour. En tout cas, je vous le souhaite, je nous le souhaite à tous, et tout particulièrement aux capitulantes qui porteront votre congrégation pour les prochaines années, avec cette conviction chevillée au cœur et dans les textes de vos chapitres, que vous faites partie de ce monde à transformer par l'amour dont vous êtes dépositaire, l'amour reçu de Dieu.